Le journal est présenté par Sophie Delpont.
Bonjour à tous. Deux bombes ont fait au moins 19 morts aux Philippines ce matin dans une église sur l'île de Jolo dans le sud du pays. Une attaque terroriste selon les premiers éléments, nous dira Christian Chesneau dès le début de ce journal. La nuit jaune annoncée n'a duré que 2 heures, place de la République à Paris hier soir. Ce rassemblement à l'appel d'un mouvement de gilets jaunes a rapidement tourné court. Reportage de Marjorie Péjac dans un instant. Et puis aujourd'hui, ce sont les foulards rouges qui entrent en scène à Paris. Une initiative pour défendre les libertés qui se revendique apolitique. Dans ce journal, nous entendrons une sympathisante de ce mouvement, mais qui n'ira pas manifester aujourd'hui. Elle nous dira pourquoi. Un double attentat aux Philippines a fait au moins 19 morts ce matin dans l'attaque d'une église sur l'île de Jolo, dans le sud du pays. Christian Chesneau, bonjour.
Bonjour.
Alors, selon les premiers éléments, 2 bombes auraient explosé.
Effectivement, il s'agit d'un double attentat. Une première bombe a explosé dans l'église au moment de la messe, puis une seconde explosion s'est produite sur le parking quand les militaires et les secours sont arrivés sur place. Le bilan est pour le moment provisoire. Le chef de la police locale fait état de 19 morts et de 48 blessés. Alors pour le moment, cet attentat n'a pas été revendiqué, mais il s'est produit sur l'île de Jolo, bastion de l'organisation terroriste Abu Sayyaf dans le sud des Philippines, un des groupes les plus radicaux de la région, même si c'est le plus petit en termes de membres. Ce mouvement qui appartient à la mouvance d'Al-Qaïda a fait allégeance au groupe État islamique en 2014. Certains de ses militants ont combattu en Afghanistan. L'organisation Abu Sayyaf est coutumière des prises d'otages et des attentats. Son objectif est la réalisation d'un État islamique sur l'île de Mindanao. Ce double attentat intervient 2 jours après l'annonce des résultats du référendum sur la création de la région autonome de Bangsa Moro, dont fait partie l'île de Jolo. Les électeurs ont massivement validé cette étape importante du processus de paix avec l'insurrection musulmane, alors que les Philippines sont majoritairement catholique. Une partie du sud est à majorité musulmane. Des décennies de conflits avec les autorités de Manille ont fait des dizaines de milliers de morts. L'un des principaux groupes rebelles, le Front Moro Islamique de Libération, avait signé en 2014 un accord de paix avec le gouvernement pour plus d'autonomie du sud. Le double attentat d'aujourd'hui vient rappeler que certains extrémistes sont prêts à tout pour faire dérailler ce processus politique.
Merci Christian Chesneau, en direct ce matin sur France Culture. Emmanuel Macron est aujourd'hui au Caire pour rencontrer le président Al-Sisi, une visite dont le but est de renforcer le partenariat stratégique entre la France et l'Égypte autour de grands contrats d'armement. De leur côté, plusieurs ONG, dont Human Rights Watch, ont adressé une liste de 30 prisonniers à libérer et dénoncent la timidité de la France sur la question des droits de l'homme. En France, la première nuit jaune a vite tourné court à Paris hier. Le rassemblement en place de la République, pourtant déclaré en préfecture et autorisé, a duré moins de 2 heures. Peu avant 19h, les forces de l'ordre ont évacué les quelques centaines de personnes présentes pour éviter des heurts. Pourtant, c'est un rassemblement qui se voulait pacifique, Marjorie Péjac.
L'idée de départ, c'était que la mobilisation des gilets jaunes prenne une autre forme que les manifestations dans les rues. Transformer la place de la République en rond-point géant pour échanger sur les revendications et discuter dans le calme, loin des images de casse qui émaillent régulièrement les cortèges. Selon Paul-Thierry Valette, organisateur du rassemblement, il fallait s'arrêter de marcher et prendre le temps de dialoguer. Et dialoguer, c'est bien ce que recherchait Abdou, professeur de physique-chimie venu hier soir place de la République.
Je suis là pour discuter, pour échanger, pour apprendre. En fait, vous savez, c'est comme une université ouverte. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses en rencontrant des gens que je ne connais pas. Vous savez, c'est merveilleux quand même d'échanger avec des gens qu'on n'a jamais vus, juste le fait de se rencontrer. Ici, vraiment, c'est une belle occasion de rassemblement, de parler, de discuter, de penser. Voilà.
Échanger lors de rassemblements nocturnes et sur la place de la République, un air de déjà-vu. Cette nuit jaune s'inspirait du mouvement Nuit Debout qui en 2016 avait élu domicile au même endroit. C'était en pleine contestation de la loi travail. Les revendications des gilets jaunes sont différentes, mais l'envie est la même. Nourrir le débat. Fanny, une infirmière retraitée, s'est déplacée hier soir pour ça.
J'aime bien être dans la rue, au contact des gens pour savoir ce que tout le monde pense plutôt que d'être toujours derrière la radio, la télévision, les médias, etc. Je suis un peu déçue de voir qu'il n'y a pas beaucoup de monde, que c'est un peu statique. Je ne sais pas ce que les gens attendent là. Moi j'attendais des discussions parce qu'on avait dit que ce serait un débat et je ne vois pas du tout ça. Je vois des gens qui veulent aller certainement à la castagne. C'est tout ce que je vois.
Espoir déçu pour cette retraitée. Effectivement, très rapidement, après un face-à-face tendu entre forces de l'ordre et certains manifestants, les policiers ont fait usage de gaz lacrymogène. La foule a été dispersée dans les rues adjacentes à la place de la République. Il était moins de 19h. La première nuit jaune à Paris n'a quasiment pas existé.
Marjorie Péjac pour France Culture. Aujourd'hui, ce sont les foulards rouges qui appellent à un grand rassemblement intitulé Marche des libertés pour la défense des libertés publiques, pour contrer aussi le mouvement des gilets jaunes dans la rue. Le gouvernement espère y voir une foule nombreuse pour soutenir sa politique et contrer l'image populaire des gilets jaunes, alors que tous les sondages montrent un soutien massif de l'opinion publique sur leurs revendications, notamment portant sur l'injustice fiscale. Sylviane Ménard a 55 ans, elle est consultante internationale dans l'aide en développement et à la coopération. Elle est sympathisante des foulards rouges, mais elle n'ira pas manifester. Elle nous explique pourquoi.
Disons que depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, je m'inquiète, moi, pour ce que ça signifie en termes de démocratie. Et pour voyager, avoir la chance, peut-être, de voyager dans un certain nombre de pays qui ne sont pas des exemples de démocratie, je me dis qu'une démocratie est très fragile. Là, je pense au Congo, par exemple. J'ai vécu en Éthiopie au moment où il y avait les élections de 2005 qui se sont déroulées sous une très forte tension, justement entre le parti de Meles, qui était le parti sortant, et le parti des Kenedjites, qui était très, très populaire, pour le coup, vraiment populaire, dans le sens soutenu par le peuple. Donc nous, on pouvait le voir quand on allait sur le terrain, parce que toutes les personnes venaient vers nous et essayaient de nous communiquer leur enthousiasme sur le Kennedy. J'ai été à Madagascar aussi pendant la crise post-électorale entre Ravalomanana et Ratsirak en 2002. C'est pareil, on était dans une situation pré-insurrectionnelle et c'était très difficile pour tout le monde. On avait beaucoup de difficultés de ravitaillement, on avait peur d'être arrêté au checkpoint. Enfin, c'était une situation très difficile. Voilà, il suffit en fait de quelques barrages sur la route et les choses s'installent très rapidement. Bon, alors, heureusement, en France, ça n'a pas atteint ces proportions, mais dès qu'on bloque les routes, dès qu'on attente à la liberté de se déplacer, on commence à mettre un pied dans la confiscation de la démocratie. Et ça me semble très grave.
Et vous-même, vous allez mettre un foulard rouge, vous êtes prête à revendiquer justement votre position là?
Je me suis rendu compte que c'était très clivant et que c'est très difficile d'affirmer sans difficulté, en fait, soutenir le mouvement des foulards rouges. Autant affirmer son attachement à la démocratie, ça pose aucun problème. Effectivement, dès lors qu'on arbore un foulard rouge, on est perçu comme pro-macroniste, pro-Macron, pro-gouvernement, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas forcément le cas.
Sylviane Ménard, consultante internationale en droit au développement. La marche des foulards rouges partira à 14h de la place de la Nation en direction de la place de la Bastille. En Espagne, plus d'un an s'est écoulé et les responsables politiques et sociaux catalans indépendantistes sont toujours en prison. Leur procès devrait s'ouvrir le 5 février prochain. Sur le banc des accusés du tribunal suprême de Madrid, 9 dirigeants politiques catalans actuellement en détention préventive, accusés de rébellion violente en vue de rompre l'unité de l'État et de sédition. 3 autres accusés en liberté provisoire ne devront répondre que de ce second chef d'accusation. Certains encourent jusqu'à 25 ans de prison. Aujourd'hui, sont organisés devant ces centres de détention en Catalogne des mobilisations de soutien. Nous y reviendrons. Le journal L'Humanité va-t-il disparaître? Le quotidien communiste rencontre des difficultés financières et dans un communiqué, son directeur, Patrick Le Yarrick, a annoncé avant-hier que l'UMA avait été placé sous protection du tribunal de commerce de Bobigny. Pour le sociologue des médias, Jean-Marie Charon, les difficultés du journal fondé par Jean Jaurès témoignent de la fin annoncée d'une certaine forme de presse d'opinion.
Ça marque un phénomène, c'est que la presse d'opinion au sens traditionnel, c'est-à-dire cette presse effectivement qu'on a connue depuis la Révolution française, hein, parce que c'est à ce moment-là qu'apparaît la notion de presse d'opinion en France, cette presse d'opinion qui était très articulée avec le politique, avec souvent d'ailleurs des journalistes qui étaient en même temps journalistes et hommes politiques, mais c'est vrai que cette forme-là de presse d'opinion à ce point imbriquée dans le politique est une presse qui a décliné et l'Humanité est l'un des rares titres qui reste d'ailleurs en tout cas en quotidien. Il n'y a plus aujourd'hui, je dirais, d'articulation ou de relation directe entre l'influence d'un parti politique et la place que peut prendre un journal ou un média qui s'exprimerait en son nom. Il me semble, mais je serais peut-être un peu plus prudent, qu'on voit un peu le même phénomène avec le média, qui a été créé par un certain nombre de proches de Jean-Luc Mélenchon, et on voit bien que le média en tant que site internet n'a pas pris l'expansion que représente aujourd'hui le parti de Jean-Luc Mélenchon.
Le sociologue des médias Jean-Marie Charon répondait à Pierre-François Plessis. Une audience aura lieu mercredi pour déterminer l'avenir du journal. Le temps, de la pluie partout dès ce matin, presque de la neige sur les Alpes, des orages cet après-midi sur le centre du pays, du soleil en revanche au bord de la Méditerranée, côté température comptée de moins 1 à 12 degrés.